1, 2, 3, 4, 5, 6.
Salut à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Le Grand Tout, la seule de la semaine d'ailleurs. On est le dernier vendredi du mois et comme d'habitude, eh bien, on retrouve la série Champ Libre à une personnalité du monde de la culture se balade à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres et nous en ramène quelques documents qui ont à fond un peu son portrait. Nous recevons aujourd'hui le scénariste de bande dessinée Simon Rochepot et à travers sa sélection en quelques documents piochés toujours donc dans la collection de l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres, eh bien, nous parlerons de son goût pour les rencontres, l'histoire, le journalisme, les voyages, le cinéma. Nous parlons beaucoup aussi de sa bande dessinée L'Homme qui en avait trop vu, une BD qui raconte l'histoire d'Ali Arkady, reporter de guerre ayant rejoint des combattants en Irak lors notamment de la libération de Mossoul, un album paru au printemps 2024 chez Futuropolis. Simon Rochepot sera présent le 8 novembre, je vous le dis déjà, pour un échange au Champ Libre avec l'universitaire et essayiste Romain Huet dans le cadre d'un vendredi de la bibliothèque, un rendez-vous programmé dans le cadre, lui aussi, des dialogues européens du 7 novembre au 1er décembre en partenariat avec l'Institut français. Vous trouverez tous les rendez-vous sur leschampslibres.fr. C'est parti donc pour Champ Libre A, saison 2, épisode 2. Bonne écoute. Le dernier vendredi de chaque mois, vous le savez, j'espère, auditeurs, auditrices de Canal B et de l'émission Le Grand Tout, eh bien, on laisse la place à une personnalité du monde de la culture, que ce soit une photographe, un écrivain, un plasticien, une chanteuse. Aujourd'hui, on va parler avec Simon Rochepot. Bonjour, Simon.
Bonjour.
Qui est scénariste de bande dessinée, après avoir pratiqué d'autres professions, d'autres moments dans l'imprimerie, la presse, la publicité. Ça fait 12 ans que tu es aussi graphiste indépendant, mais là on va parler plus de ce qui t'intéresse dans la pratique de l'écriture de scénario, et puis on va se balader à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres, puisque c'est ça tous les derniers vendredis du mois, Champs Libres A. On va s'intéresser à ce parcours qui commence en 1970 en Anjou. Tu n'en as peut-être plus beaucoup de souvenirs de ces tout débuts, et puis qui arrive jusqu'à la publication en avril dernier, mais il y aura aussi des choses qui arrivent ce week-end avec le festival Quai des Bulles. Il y a eu la publication en avril chez Futuropolis de L'Homme qui en a trop vu, un récit documentaire de bande dessinée avec l'histoire de Ali Arkady et puis les dessins de Isaac Wentz et le scénario de Simon Rochepot, un livre important parce qu'il nous donne à voir les après de Daesh en Irak et en Syrie, avec notamment cette bataille de Mossoul de 2016, octobre 2016 jusqu'à juillet 2017, c'est très court, et pourtant il a vécu plusieurs vies, j'ai l'impression, ce Ali Arkady pendant ce temps-là. Alors évidemment, Champ Libre A, ce n'est pas seulement l'évocation de ce qui préoccupe le plus l'invité du jour, mais on va en parler quand même beaucoup de cette bande dessinée là et puis de quelques autres aussi qui ont été parus également chez Futuropolis, L'Homme au bras de mer, c'est l'itinéraire d'un pirate somalien, et puis aussi La ZAD, c'est plus grand que nous. On voit dans ce qui te préoccupe en tant que scénariste, et bien les les sauts et les soubresauts du monde, que ce soit du côté de Notre-Dame-des-Landes ou du côté de Fallujah, Mossoul, et puis dans la mer Somalie. Alors, si je disais que ta vie commence en 1970 en Anjou, quand commence ton goût pour les histoires qu'on te raconte ou que tu te racontes?
Ouais, en fait, c'est marrant, c'est comme si finalement, même si je suis né en 70, ça commence vraiment quand je publie mon premier bouquin. C'est un truc que j'ai toujours eu envie de faire, d'écrire des histoires. En fait, j'en ai toujours écrit depuis tout gamin. Je me souviens que je faisais des scénarios de films quand j'étais gamin et que je les faisais jouer par des Playmobil. Donc en fait, je remercie la fabrique Playmobil de m'avoir donné le goût des histoires. Ouais, bah j'en ai toujours lu. La BD, ça a été très évolutif. Ça a commencé comme un peu tout le monde avec les Tintin, les Astérix, les grands classiques, et puis un petit peu après sur des trucs un peu interdits chez moi, des fluides glaciales, fluides glaciales que je trouvais chez mon cousin, lui il avait le droit, moi j'avais pas le droit. Et Gottlieb, ça c'était une méga référence pour moi, c'était en me disant putain mais tout est possible dans la BD, et y compris d'être irrévérencieux, de pouvoir, enfin voilà, c'était là il y a des horizons qui s'ouvraient, même si je suis du coup venu moi vers de la BD documentaire qui est pas a priori drôle. En même temps, écrire une BD comique, ça me brancherait bien aussi.
Ça pourrait arriver, donc, dans la vie de Simon Rochepot.
Ouais.
Alors, on voit, c'est vrai qu'à travers les titres publiés depuis 2013,
oui.
12 France avec le dessinateur Lionel Chouin,
ouais.
Jusqu'au tout dernier, eh bien, on est dans l'état du monde en Ukraine, dans une zone à défendre, et puis aussi du côté de l'après Daesh. Alors, à quel moment tu t'es dit oui, ok, c'est bien Gottlieb, c'est bien le Rubric Cabrac et puis Fluide Glacial, mais il y a des choses plus sérieuses qui m'excitent aussi.
Bah, disons que la BD documentaire, c'est Joey Sacco, hein, et Joey Sacco, il est aussi publié par Futuropolis. Il y a un auteur que j'admire aussi, jusqu'à le traquer, jusqu'à chez lui, essayer de le trouver dans les festivals. Enfin, je fréquente en tant qu'auteur, puisqu'il est aussi chez Futuropolis, c'est Étienne Davodeau. Je dirais que chacun de ses bouquins, je cherche à comprendre comment il fait. En fait, c'est une référence, quoi. J'ai un peu un maître, quoi.
Tu parles de Joe Sacco, on peut aussi imaginer que l'influence de Art Spiegelman a été importante, si c'est pas un auteur de bande dessinée documentaire.
Ouais, bien sûr, mais c'est venu plus tard finalement, quand même, Maos c'est les années 80, mais moi j'ai dû le lire, je sais pas, fin 90, hein, dans les années même 2000 peut-être. Ouais, bah évidemment c'est la grosse claque, quoi. Tout ça pour dire qu'en fait l'envie en fait de faire de la BD et d'écrire de la BD, c'était en premier lieu de sortir de mon bureau, quoi. Donc je pense qu'une BD comique, on peut rester derrière son bureau, enfin on n'a pas besoin, enfin voilà, tout est dans l'imagination. Moi j'avais besoin de rencontrer des gens, j'avais besoin de plus rester derrière un ordinateur toute la journée, et ça s'est déclenché par le premier scénario, mais qui est pas une BD documentaire, même si elle est documentée, mais le second surtout, qui était sur Mohamed le pirate somalien. Qui m'a obligé à aller en prison déjà. C'est la première fois que je mettais les pieds en prison, puisque Mohamed était en prison la première fois que je l'ai rencontré, et je l'ai suivi pendant plusieurs mois en prison jusqu'à sa sortie. Et j'ai rencontré les gens d'Emmaüs, donc là c'est la première fois que j'allais vraiment sur le terrain, et que j'ai proposé ce scénario à Futuropolis, et c'est eux qui m'ont trouvé le dessinateur Thomas Azuelos, avec qui j'ai continué après en allant sur la ZAD avec Thomas, parce qu'on avait un peu le même état d'esprit d'aller rencontrer les gens, et on est resté aussi plusieurs semaines avec Thomas sur la ZAD, donc c'était mon troisième bouquin du coup, la ZAD.
Avec Simon Rochepot, on va évidemment se balader entre la bibliothèque des Champs Libres et puis les propres livres de Simon, qui s'y trouvent parfois. Là, il se trouve qu'en ce moment, ils sont un peu empruntés. Bon, voilà, vous les trouverez par exemple à Rennes, à la bibliothèque du Triangle, voilà, pour citer un endroit où on peut aller découvrir le travail de Simon Rochepot. On pourra aussi le découvrir plus avant. Bourbon à travers eh bien, une rencontre qui aura lieu le 8 novembre au Champ Libre. C'est dans le cadre eh bien, des Vendredis de la Bibliothèque et puis aussi des Dialogues Européens. Hein, c'est du 7 novembre au 1er décembre. Tu pourras discuter, échanger avec l'essayiste universitaire Romain Huette qui lui aussi est... assez au point hein, sur la
ouais,
guerre.
Je pense même peut-être plus que moi. Ouais.
Même si l'Ukraine, puisque lui est semble-t-il spécialiste de l'Ukraine, notamment de la guerre en Ukraine, eh bien l'Ukraine c'est aussi un sujet et puis une de ses ressortissantes, Inna, hein, qui
Shevchenko, ouais. Inna Shevchenko, ouais.
Qui elle est vraiment une femme qui est devenue féminine.
Oui. Ouais, et je suis allé en Ukraine à la rencontre de sa famille. Elle est interdite de passage en Ukraine en fait, puisqu'elle est maintenant exilée en France. Et j'ai eu un privilège en fait, parce que je pense qu'on n'est vraiment pas nombreux à être allé sur ses traces en Ukraine. Donc elle m'a ouvert les portes finalement de sa famille. Et je suis allé en 2018, donc bien avant les événements de 2022, 4 ans avant quoi. C'est vraiment entre 2014, la Crimée, 2018 et 2022, mais loin de me douter que l'Ukraine allait être envahie par les Russes 4 ans plus tard quoi. C'était un choc bizarre, ouais.
On va se balader entre l'histoire du monde et puis l'histoire de Simon Rochepeau dans ce Champ Libre A avec une première pause musicale maintenant, un disque emprunté à la Bibliothèque des Champs Libres où on va entendre un chanteur que tu as découvert de quelle manière et que tu as écouté combien de temps.
Vraiment que là je vais vraiment être dans le souvenir et l'anecdote. C'est mon père en fait, donc en 78, du coup je connais la date par cœur, mais c'est à la mort de Brel en octobre 78 qui me dit, enfin qui était pas effondré mais triste quoi, en me disant oh là là, Jacques Brel est mort machin. Moi je connaissais pas du tout son nom, mais il y avait cette fameuse pochette là quelque part dans les disques de mon père et je l'ai écouté une première fois. Ouais, c'est ça.
Tu peux la décrire si tu veux.
Ben ouais, en fait c'est Jacques Brel qui est dans un bar à Bruxelles. Et d'ailleurs moi j'ai essayé de retrouver le bar parce que je suis allé à Bruxelles et je suis allé dans les endroits où Jacques Brel devait traîner. Bon, j'ai pas retrouvé exactement le bar, mais je pense que je suis allé boire des bières dans les bars où il a traîné. Et je suis allé évidemment dans son musée qui est tenu par sa fille et son petit-fils. Et en fait, Brel m'a plus abandonné du tout jusqu'à aujourd'hui. Je l'écoute vraiment pas beaucoup, c'est un truc très intime. Et je l'écoute finalement quand je peux avoir des petits coups de blues ou des choses comme ça. Et puis je m'écoute une chanson de Jacques Brel. Mais c'est un truc que j'ai vraiment pas envie d'écouter d'ailleurs avec les autres. C'est un truc qui me consomme. Enfin, ouais, je l'écoute tout seul, en solitaire. Tout ça pour dire que je connais absolument bien le personnage. C'était une espèce de mentor aussi, tu vois, vraiment une référence, sa vie est une référence, la façon dont il s'est comporté, la façon dont il est, donc quand il se sent piégé, il se barre ailleurs, qu'il n'a pas envie d'être un professionnel de son succès, donc il évite tout ça, qui fait du cinéma, qui fait du théâtre. Ouais, une grosse personnalité, ça a beaucoup compté pour moi, d'autant plus que j'écoutais pas énormément de musique, j'en ai jamais non plus beaucoup écouté. Donc voilà, c'est une référence quoi.
Jeff, vous connaissez la chanson forcément, on n'est pas dans un bureau, non, on est plutôt dans un bistrot, il est tard et Jeff va pas très bien. Et une écriture aussi ouais. Vraiment proche de la vie.
Non Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête de pleurer comme ça devant tout le monde. Parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse blonde t'a relaissé tomber. Non Jeff, t'es pas tout seul. Mais tu sais que tu me fais honte à sangloter comme ça bêtement devant tout le monde. Parce qu'une trois quarts putain t'a claqué dans les mains. Non Jeff, t'es pas tout seul. Mais tu fais honte à voir. Les gens se peignent notre tête. Foutons le camp de ce trottoir. Viens, je viens. Viens, viens. Viens. Il me reste trois sous. On va aller se les boire chez la mère Françoise. Viens, je viens. Viens. il me reste 3 sous. Et si c'est pas assez, ben, il me restera l'ardoise. Puis on ira manger des moules et puis des frites. Des frites et puis des moules et du vin de Moselle. Et si t'es encore triste, on ira voir les filles chez la madame André, paraît qu'il y en a de nouvelles. On chantera comme avant, on sera bien tous les deux, comme quand on était jeunes, comme quand c'était le temps que j'avais de l'argent. Non Jeff, t'es pas tout seul, m'arrête tes grimaces, soulève tes 100 kilos, fais bouger ta carcasse. Je sais que t'as le cœur gros, mais il faut le soulever Jeff. Non Jeff, t'es pas tout seul, arrête de sangloter, arrête de te répandre, arrête de répéter que t'es bon à te foutre à l'eau ou que t'es bon à te pendre. Non Jeff, t'es pas tout seul, mais c'est plus un trottoir, ça devient un cinéma où les gens viennent te voir. Viens Jeff, mais viens, viens, viens. Il me reste ma guitare, je l'allumerai pour toi et on sera espagnol. Je viens, viens. Comme quand on était môme, même que j'aimais pas ça, tu imiteras le rossignol. Je puis on se trouvera un banc, on parlera de l'Amérique. Où c'est qu'on va aller, tu sais, quand on aura du fric. Je viens. Et si t'es encore triste, ou rien que si t'en as l'air, je te raconterai comment tu deviendras Rockefeller. On sera bien tous les deux, on chantera comme avant, comme quand on était beau Jeff, comme quand c'était le temps d'avant qu'on soit poivron. Allez viens Jeff, viens. Ouais, ouais Jeff, ouais viens.
C'était bien sûr Jeff par Jacques Brel, choisi par Simon Roche pour notre invité aujourd'hui dans l'épisode 2 de la saison 2 de Chant Libre. Ah, petite balade dans l'intimité d'une personnalité du monde de la culture, et puis aussi balade au deuxième étage de la bibliothèque des Champs Libres, où tu as pu nous ramener quelques documents, des CD, des DVD, et puis des livres aussi. Je rappelle donc, Simon Rochepot, tu es scénariste de bande dessinée, avec une grosse, grosse composante documentaire tout de même, même si parfois c'est toi qui te documentes, tu n'utilises pas, ou en tout cas tu n'as pas les souvenirs d'une personne qui elle a vraiment vécu l'histoire. Ouais. C'est le cas par contre hein, sur L'homme qui en a trop vu. Tu n'es pas seul au scénario finalement là, vous êtes deux. Est-ce qu'on peut dire ça ou pas?
Dirais, non, en fait je dirais pas ça. Je dirais que déjà Ali parle pas du tout français, un peu anglais, mais sa langue maternelle c'est le kurde et l'arabe. Et donc les échanges ont été longs et un petit peu difficiles, laborieux, on va dire, jusqu'au moment où je me suis dit j'avais de la matière. J'avais donc Ali, c'est un photographe professionnel, reporter de guerre, et qui a été accueilli en France en début 2017 après avoir couvert la guerre contre Daesh à Mossoul. Il est revenu avec un tas de documentation qui m'a donné à voir en fait. Donc j'avais toutes ces photos, ces vidéos, j'avais des heures et des heures de vidéos, donc j'avais cette matière-là. Et quelques écrits de lui que j'ai fait traduire en français. Mais surtout, je l'ai rencontré pendant un an pour qu'on s'apprivoise, pour qu'il me fasse confiance. Et à un moment, j'ai bloqué 3 jours en Bretagne en me disant « Tiens, on va trouver un petit coin vraiment sympa où on va être isolé aussi et puis tu vas parler dans ta langue. » Et j'ai fait appel à un traducteur en enregistrant tout ça. Et puis après, j'avais une matière énorme que j'ai composée. Là, c'est là que commence vraiment le travail sur le scénario. C'est donc pas lui qui a fait le scénario, c'est qu'il m'a fourni la matière pour faire le scénario.
Ali Arkady, qui a reçu en 2017 le prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre, c'est là que tu l'as rencontré.
Ouais.
Tu y étais pour quelle raison à cette remise de prix? Parce que tu savais que tu allais pouvoir rencontrer gens qui seraient peut-être des pistes vers des nouvelles histoires que tu écrirais.
Non, c'est marrant, c'est pas du tout ça. C'est qu'on présentait avec Thomas L'homme au bras de mer, qui était sorti quelques mois avant, et on était au Salon du Livre, il y a un tout petit Salon du Livre à Bayeux. Et on passait 2-3 jours là-bas, et il y a une remise des prix le samedi soir, et c'est ce soir-là que Ali a reçu son prix pour le reportage sur la torture qu'il avait documenté un an auparavant. Et moi, ça m'a vraiment frappé de d'abord de voir les images sur des grands écrans. C'est vraiment de voir ces images très violentes et de voir Ali arriver. C'est quelqu'un de très doux, de très sensible, de très réservé aussi. Et de le voir prendre son prix et de sentir aussi un malaise dans la salle et de pas se comprendre pourquoi. Et puis, c'est justement parce que j'ai voulu comprendre pourquoi, et puis parce que je connaissais pas du tout le milieu des photoreporters de guerre et que ça m'intriguait. Par curiosité, donc j'ai essayé de contacter Ali. Ça n'a pas été facile au début, mais c'est pas du tout parce que j'y allais pour chercher un sujet, mais effectivement, quand on est scénariste, on est toujours à l'affût de sujets, donc on a toujours l'œil qui... on est vraiment à l'écoute quoi, de ce qui se passe autour, et puis voilà.
Il y a cette phrase hein, en tout début, avant même la présentation et la rencontre, le début de l'homme qui en a trop vu, c'est cette phrase d'Emmanuel Lévinas, le visage est ce qui nous interdit de tuer.
Ouais.
Et le visage, c'est vrai qu'il est souvent caché sous un... un sac en toile, on les voit ces exactions, nous, à travers le dessin d'Isaac Renz, et puis les souvenirs, et puis la manière dont tu vas en faire un scénario, ceux d'Ali Arkady. Lui, il photographie, et parfois il va un peu plus loin, en fait. Il sacrifie un peu son éthique de journaliste, parce qu'il sait que sinon, il risque sa peau aussi.
C'est un moment où il a la confiance des gens qui l'accompagnent, et où finalement, il y a une déception de sa part, c'est-à-dire qu'il pensait que ces gens-là étaient, j'allais dire honnêtes, mais c'est pas quand on fait la guerre, c'est difficile d'être honnête. Mais en tout cas, il remarque qu'ils exercent la torture contre des civils innocents, et c'est ça qui va le choquer et qui va documenter pour que cette vérité-là aussi puisse éclater en dehors des frontières de l'Irak. Il joue sa peau, bien sûr.
On lui dit parfois ne t'attache à personne, jamais. Et puis lui, il dit je fais des photos, c'est mon métier, je ne frappe pas. Et puis la page suivante, on est à Paris, et là il dit si j'avais refusé de frapper un jour ou l'autre, il m'aurait tué.
Ouais, c'est ça. Et il exerce son métier d'une façon un peu différente de ses collègues, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai appris aussi au contact des reporters à Bayeux, c'est qu'en général ils sont envoyés pour des durées très déterminées, courtes, sur les fronts de guerre, ils peuvent passer d'un front à l'autre. Ali, il reste. Ali, il décide de rester. Il décide d'exercer ce métier qui en est plus un, en fait. C'est une espèce de... Ils se sont obligés de le faire, et donc ils restent sur du plus long terme. Voilà, c'est ce qui le différencie des autres.
Alors, ce qui est très frappant dans l'homme qui en a trop vu, hein, c'est le passage de couleurs très crues quand il y a des scènes de torture, on le comprend, et puis des choses beaucoup plus floues, suggérer. Un peu de loin pour suggérer, et puis un peu de poésie aussi finalement, qui se transforme en horreur quand il retrouve sa femme, sa fille, il retourne dans sa ville, et là il est devenu un monstre pour elle, en fait.
Ouais, c'est ça. Mais c'est des choses qui sont, même en BD, qui sont difficiles à dire, à décrire. Il faut lire Sorge Chalandon, par exemple, avec Le Quatrième Mur, qui décrit très bien ces situations de reporters qui reviennent à domicile et qui sont évidemment totalement déconnectés, qui n'ont pas les mots pour dire ce qui s'est passé, qui comprennent que les autres veulent pas les entendre, qu'il y a un silence et que finalement il faut qu'ils aient des oreilles attentives en général. Et depuis peu, ils se font suivre aussi par des psychologues, par des psychiatres, ce qui n'était pas le cas parce qu'il y a une espèce de truc un peu physique du reporter de guerre, viril quoi, où on va pas avouer que on peut avoir des traumatismes.
Il se trouve qu'en tout cas après publication de son reportage en 2017, Ali Arkady va subir un choc post-traumatique et les couleurs autour de lui ont viré au gris, en fait, il ne voit plus les couleurs.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est une façon ce livre est une façon aussi d'exorciser ça, de le rendre aussi public. Aujourd'hui, Ali, il est content que ce livre existe parce que quand on lui pose des questions et qu'il n'a pas nécessairement envie d'y répondre au moment où on lui pose, il prend le bouquin, il dit lisez ce bouquin, vous comprendrez mieux.
On va faire un voyage dans le temps, on va revenir en arrière, en 2013, à l'époque de Douce France, qui n'est pas l'album documentaire.
Non, c'est une fiction.
C'est une fiction, mais qui s'intéresse de près quand même à l'histoire de ce pays. Un pays où on a parfois un peu masqué les choses aussi, à toutes les époques, peut-être un peu plus pendant la période des années 1940, début des années 40. J'arrive là à un autre extrait musical, en fait, tu me voyais peut-être pas venir, avec cette fois-ci Larita Mitsuko.
Ah oui, c'est vrai.
Thank you.
Vous l'avez entendu, cette chanson qui, à sa manière, est aussi un peu documentaire. Hein, Catherine Ringer et Fred Chichin, Lerita Mitsouko, qui racontent, des histoires tragiques de personnes qu'on a envoyées à la mort dans des trains. Voilà, des petits trains qui traversent la campagne. C'est pas si bucolique que ça si on s'arrête pas juste à la première écoute, mais qu'on l'écoute un peu plus. Lerita Mitsouko, on les a entendus sur ce disque-là. C'est pas forcément ça que t'aurais choisi, mais j'ai profité de cette possibilité d'écouter Lerita Mitsouko pour arriver vers ce livre Douce France, en fait, qui a été le premier que tu aies publié en 2013. Comment il est né, avec la rencontre, peut-être avec Lionel Choix ou autrement?
À Rennes, vous savez, il y a l'atelier Pépé Martini, qui est un atelier d'auteurs, dessinateurs, peu de scénaristes à l'atelier, mais beaucoup de dessinateurs. Et moi, j'y allais souvent faire la fête avec eux. Et puis, je suis tombé sur Lionel Choin, avec qui je me suis assez vite bien entendu. C'est lui, en fait, qui m'a, à un moment, dit « Mais toi qui aimes écrire, t'aimes la BD ?» Il m'a mis le pied à l'étrier, on va dire. Et en me proposant, en étant à l'écoute de ce que je pouvais lui proposer comme scénario. Et j'ai écrit ce scénario, et il l'a dessiné. On l'a proposé. Ça n'a pas été super simple de le faire publier, mais on s'est accroché à ce que ça soit publié chez Futuropolis. Moi, ça m'a permis de connaître les gens de Futuropolis et de continuer, quoi. C'était une thématique qui m'intéressait parce que finalement, c'est une génération qui est celle de moi, de mes grands-parents, quasiment celle de mon père, mais il est né juste après-guerre, mon père, mais c'est vraiment la génération de mes grands-parents. Et j'avais l'impression que quand j'étais gamin, je lisais énormément de bouquins d'histoire, mais j'avais pas énormément l'occasion d'en parler à mon grand-père, et j'aurais bien aimé savoir comment lui il avait vécu ces moments-là. Trop jeune pour le faire, j'ai jamais pu poser des questions. Donc c'est autour de cette thématique-là que le bouquin se tourne.
On n'a pas écouté Charles Trenet pour autant, hein, on a écouté Lerita Mitsouko. C'est quoi, c'est vers un peu plus que l'adolescence? Non, l'adolescence que tu découvres ce duo-là?
Lerita Mitsouko, c'est des trucs, j'ai 15-16 ans, quoi. Après, c'est des trucs qu'on écoutait en boucle avec les copains. On dansait comme des tarés dessus, en se bousculant. C'est vraiment des souvenirs festifs. Et puis, dans le paysage musical français, en fait, c'était un ovni, quoi. Et puis, justement, Le Petit Train, quand Catherine Ringer a écrit cette chanson, ça correspondait pas à l'image finalement qu'elle donnait. Il y avait un truc plus profond que personne connaissait, et qu'elle a fini aujourd'hui, en fait, c'est Catherine Ringer. Enfin, c'est cette personne aussi, avec tout ce passé, toute cette il y a un truc de souffrance aussi là-dessus. Il y a des fêlures qui sont intéressantes, quoi.
On va rester en musique et on va aller vers le chaos sonore carrément. Est-ce que la musique du musicien qu'on va entendre était autre chose que de la musique, ça pourrait pas être une bataille un petit peu quand même?
C'est ça.
On l'écoute et puis on en reparle juste après. Et puis on va se diriger vers autre chose que de la musique ou de la bande dessinée, mais avec toujours l'intimité au cœur, en fait. On parlera de cinéma et puis celui de, bon allez, je vous le dis un petit peu, un spoiler déjà, de Piala et puis de Bruno Dumont. Mais pour l'instant, on écoute Alan Vega.
Thank you.
Écoutez, Champ Libre à Simon Rochepeau, scénariste de bande dessinée aujourd'hui sur Canal B, invité parce que L'Homme qui en a trop vu est un très bel album de bande dessinée documentaire chez Futuropolis avec les souvenirs d'Ali Arkady, photo-reporter kurde d'Irak, et puis le scénario de Simon Rochepeau, notre invité, et les dessins d'Isaac Wentz. On écoutait à l'instant un musicien new-yorkais, enfant terrible d'une scène punk, parce que lui fait du punk mais juste avec des synthétiseurs, avec son pote Martin Rev à l'époque de Suicide, c'était Alan Vega. Un album tardif, hein, 2021, ce Mutator. Peut-être c'est pas comme ça que tu l'as découvert. Et puisqu'on a envie d'avoir des anecdotes croustillantes sur l'histoire de nos invités, eh bien, tu peux nous parler de ta rencontre avec Alan Vega.
Ouais, c'était lors d'un concert au Transmusical. Je crois que c'est en 95 ou 96, faudrait vérifier. En fait, pour dire la vérité, c'est que je le connaissais pas. Je l'ai vu pour la première fois là, j'ai découvert sa musique la première fois là. J'ai vraiment une culture musicale assez éclectique et des fois j'ai envie de dire un peu minable. Disons qu'il fonctionne à l'émotion et je peux aimer des choses très très variées, mais en tout cas je connais pas l'histoire des groupes ni l'histoire de la musique. Je la découvre au fur et à mesure parce que mes copains de ma génération, eux, ont une ouverture plus grande que moi sur ça. Et en fait, c'est juste pour dire que quand il est arrivé sur scène, j'étais subjugué en même temps amusé parce qu'il a une sacrée il y avait quelque chose de clownesque en fait, et ça me faisait sourire, et puis je voyais en fait des gens autour qui étaient très sérieux, qui prenaient ça très au sérieux. Donc je me suis posé des questions après, mais après je suis parti complètement dans le concert. Il m'a complètement convaincu, et du coup c'est ensuite que j'ai découvert sa musique, quoi.
Et qui peut inspirer parfois des moments d'écriture, ou est-ce que tu n'écris pas du tout en musique?
Non, j'écris pas du tout en musique. Non, je suis pas du tout inspiré. C'est marrant. Hein, j'ai besoin de calme, au contraire. J'ai jamais un casque sur les oreilles pour écrire. Après, il y a selon des thématiques, par exemple, je voulais parler un petit peu de Florent Marchais sur son dernier album qui m'inspirait sur ces milieux un peu de la France périurbaine, ou de la France même campagnarde, où lui, il avait vraiment des textes qui sont très forts et que j'écoute parce qu'ils peuvent me donner des ambiances, en fait.
Des ambiances que tu vas rechercher dans la lecture de l'actualité, j'imagine, constante, en fait.
Ouais.
Et aussi peut-être chez des réalisateurs qui eux aussi aiment mettre leur caméra tout près des gens, tout près de la vie, tout près des sensations.
Bien sûr, si on parle de Piala par exemple, Piala c'est une grande référence aussi dans mon panthéon personnel de tous ses films, en fait. J'ai toute sa collection. Je vais pas dire que je les revois, j'ai peut-être même pris sa filmographie un petit peu à l'envers. Je pense que ça a peut-être commencé par Le Garçu, puis je suis remonté voir même la maison dans les arbres. La maison dans les bois, qui est une série de 8 heures, je crois, pour la télé française, qui date de la fin des années 60. Pourquoi Piala? Parce que il fait du cinéma autobiographique, en fait. C'est-à-dire qu'il fait jouer par des acteurs ses propres. Sa propre personnalité, ses propres personnages, des moments de sa vie, et que son cinéma m'intrigue parce qu'il est vraiment proche du réel, en fait. C'est du cinéma. Alors après, quelle méthode? Je pense qu'aujourd'hui les méthodes qu'il utilise vont être décriées.
Je pense pas que Sandrine Bonner en dirait beaucoup de bien, par exemple.
Ouais c'est ça, ouais. On sait que sur les tournages c'était pas un personnage facile, mais on voit aussi que c'est un mec qui souffrait énormément. Et pourquoi? enfin, on revient à son enfance. C'est pour ça que j'ai choisi aussi L'enfance nue, qui est peut-être un de mes films préférés, parce que ça traite de l'enfance, évidemment, et que c'est aussi la sienne qu'il met en scène, et que c'est hyper documentaire, filmé comme un documentaire. C'est vraiment un film fascinant.
Eh bien, il y a des correspondances comme ça qui peuvent se faire entre deux invités de Champ Libre A, puisque dans l'épisode 5 de la saison 1, l'écrivain rennais Antoine Filias l'avait aussi mis dans son panthéon personnel. Antoine Filias, d'ailleurs, je vous le dis, hein, qui est animateur sur Canal B de l'émission Le Tri Sélectif. Voilà. Okay. Tout est dans tout et tout est dans le grand tout. On peut imaginer que Piala d'un côté et puis celui dont j'ai entre les mains un pavé. Ouais. Alors, c'est pas lui qui l'a écrit, mais c'est Benjamin Thomas qui nous propose le cinéma de Bruno Dumont en fragments alphabétiques.
Oui.
C'est un héritier aussi de Piala Dumont.
Oui, je pense, ouais. En tout cas, ils ont peut-être en commun justement le Nord, peut-être, mais pas que. Je pense que Dumont, il avait aussi commencé par du documentaire, et surtout, il prend des acteurs, enfin, il prenait, parce qu'il a changé sa technique de cinéma, mais il prenait des acteurs non professionnels. Il faisait tourner, comme Piala au début, hein, il faisait tourner des acteurs qui n'avaient pas de formation d'acteur, en fait. Et donc, arrivés, tous les deux cherchent la vérité, cherchent la vie, en fait, vraiment, mais la vie telle qu'elle est, telle qu'on pourrait planter une caméra sur une séquence, mais les acteurs doivent oublier que la caméra est là. Quelquefois, le film déborde sur la scène. Enfin, c'est des choses qui m'intéressent vraiment dans la façon de filmer, d'aborder le cinéma, d'être acteur, d'être metteur en scène. C'est, ouais. Ouais, ils ont vraiment des correspondances fortes, ouais, finalement, ouais.
Et Dumont qui peut toucher à des cinémas qui ont l'air différents les uns des autres,
c'est une évolution, hein, mais j'aime bien voir évoluer, même si j'ai pas vu son tout dernier film, mais voir ce qu'il a fait, Le Petit Quinquin, qui est un truc complètement, enfin, qui part dans quelque chose de plus farfelu, mais aussi avec des non-acteurs, et puis à un moment il fait tourner Lucchini. On se demande pourquoi il va chercher Lucchini, Binoche, qu'est-ce qui leur plaît dans ses personnalités, enfin, qu'est-ce qui lui plaît, lui, dans ses personnalités, et eux, de venir vers ce cinéma-là, c'est assez étrange. Et puis un des derniers films que j'ai en mémoire, c'est France, avec Léa Seydoux, qui est aussi un film, d'ailleurs, sur la façon dont on diffuse l'information ou dont l'information vient à nous. C'est vrai, c'est un film sur le reportage aussi de guerre, d'ailleurs.
C'est forcément pas anodin qu'il n'y ait plus, alors.
Ouais, mais je fais le lien maintenant sans avoir pensé à ça avant. Ouais. Ouais.
Quand on est scénariste de bande dessinée comme ça et qu'on a recours à des histoires et on va les transformer pour les rendre un scénario de bande dessinée. Comment c'est possible de dire ça va me suffire comme source? Non, il y a d'autres sources qui viennent augmenter discours.
Mais c'est marrant, enfin, tu viens de dire transformer, et c'est ça, en fait, finalement, qui, comme on parlait de Piala, c'est la transformation de la vie. C'est-à-dire que là, je transforme la vie pour qu'elle soit lisible, en la vie d'Ali, là, pour qu'elle soit lisible pour le lecteur de bande dessinée qui connaît pas du tout sa vie. Donc effectivement, il y a ce prisme, il y a cette transformation par l'écriture. Moi, je garde toujours en tête, en fait, d'être le plus proche possible du vécu d'Ali et que lui-même se reconnaisse dans ce que je vais écrire. Donc là, je lui ai fait lire, il est revenu sur très peu, mais c'est mon regard sur lui, mais j'essaye d'avoir cette grande proximité, cette intimité, en fait, avec Ali, pour traduire le mieux possible ses émotions, quoi.
Ali qui est photoreporter, Ali qui est un artiste surtout, qui a fait deux fois les Beaux-Arts en Irak et puis dans le Kurdistan et puis ensuite à Paris.
Ouais.
Comment tu le vois, toi, son évolution du moment où tu le rencontres en 2017 à Bayeux et puis le moment où là, il est diplômé des Beaux-Arts de Paris et puis propose des gravures un peu particulières.
Ouais, c'est ça. D'une part, traumatisé, il peut plus retourner sur les lieux de guerre. Il continue à faire un peu de reportage. Là, par exemple, il est sur un sujet sur les réfugiés en France. Donc, il fait toutes les frontières. Il est allé sur la frontière polonaise-ukrainienne. Il continue à faire son métier de photo, d'image, etc. Et puis, effectivement, il développe une technique qu'il a mis lui-même au point, en fait, c'est d'imprimer ses anciennes photos, photos d'Irak, et pas que, enfin, des photos de ses reportages précédents, sur des gros blocs de pierre lisses qu'il a trouvés au Beaux-Arts, qui allaient partir à la déchetterie, et qui eux-mêmes ont une histoire, ces blocs, qui ont une histoire à Paris, qui sont aussi l'histoire des Beaux-Arts de Paris. Et il imprime ça, et il met ça en scène aussi, c'est-à-dire qu'il fait des scénographies avec ses blocs, avec ses photos. C'est assez, pour moi, c'est la prolongation évidemment de son travail de reporter, qui touche la mémoire en fait, qui touche une façon de transmettre et que ça reste en fait, que ça soit un côté indestructible.
On a parlé tout à l'heure de ce traumatisme qu'il vit, lui, Ali Arkady. Est-ce qu'il n'y en a pas un aussi, quand on a vu, et c'est votre cas à tous deux, en fait, hein, Isaac et toi, quand on a vu ces photos, d'abord sur grand écran à Bayeux, et puis ensuite, j'imagine, vous avez vu les photos d'Ali. Est-ce que ça, c'est pas traumatisant aussi ?
Si. Si, bah après, c'est pas comparable évidemment, donc je vais pas comparer
non, c'est sûr.
Les traumatismes d'Ali, mais oui, en fait, mais c'est de la même façon que les journalistes qui couvraient les attentats du 15 novembre se repartaient du tribunal complètement traumatisés ou bouleversés, et qui avaient besoin aussi d'une aide psychologique. Nous, moi, j'ai pas eu cette aide là, mais en fait, j'ai mis un peu de temps à m'en relever, et un peu de temps à travailler sur autre chose. Ouais.
À travers cette bande dessinée, L'homme qui en a trop vu, on a la possibilité de connaître l'histoire, celle très récente, dans son horreur, avec quand même une distance, finalement, c'est plus confortable pour nous, le lecteur.
Bah, je vous le souhaite, j'espère. J'espère que c'est pas une lecture trop traumatisante, mais je sais qu'elle est pas drôle. J'ai envie de faire des livres qui restent aussi.
Tu nous parlais tout à l'heure, Simon, du fait que tu aimerais écrire une bande dessinée scénarisée, une bande dessinée d'humour, peut-être en digne descendant de Gottlieb. Je ne sais pas si tu te vois comme ça, sans doute pas à travers les scénarios que tu as pu écrire jusqu'à présent, mais tu crois que c'est imaginable véritablement que tu pourrais le faire ?
Ouais, en fait, j'ai commencé à le faire. J'espère que ça verra le jour et ça va nous faire un enchaînement sur Miossec, parce que c'est avec Lionel Chouin que je continue à voir régulièrement, on s'échange des envies, des projets, et là on est tous les deux des grands fans de Miossec depuis le premier album, qui pour nous était un espèce de choc aussi révélateur, et on suit Miossec un peu dans tous ses concerts sans avoir jamais osé l'aborder, alors que ça doit pas être trop compliqué.
Il suffit d'aller boire un coup avec lui au bar, c'est possible.
Ouais, c'est ça, mais on a jamais fait ce pas là, mais par contre on a envie de lui rendre hommage et de mettre notre fanatisme en scène à travers une BD qui sera complètement déjantée. Ouais.
On peut imaginer que si elle est basée sur sa vie, ça sera forcément déjantée. Ouais. Non, je ne suis plus sous. Peut-être pas. Vous l'avez déjà entendu sur Canal B, bah oui, parce que c'est sorti au milieu des années 90 déjà. Et on écoute Miossec, donc choisi par Simon Rochepot.
Encore ivre mort au matin, car aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et je me remémore notre nuit très bien, comme un crabe déjà mort. Tu t'ouvres entre mes mains, ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la fais et te genoux à terre. Non, je ne suis plus sous, un peu à bout, c'est rien. Moi je crois en. C'est tout. Allô, oui, c'est moi encore. Écoute-moi bien. Moi, la nuit, quand je m'endors, je t'imagine très bien perdu sous d'autres corps, me réclamant en vain, bouffé par les remords de la Saint-Valentin. Ceci est mon vœu, ceci est ma prière. Je te la fais et te genoux à terre. Sourd, un peu à bout, c'est rien. Moi je veux de toi, c'est tout. écoute-moi bien. Moi je voudrais qu'une fois encore tu me prennes pour quelqu'un et que tes yeux brillent si fort comme moi quand je suis plein, bouffé par les remords de la Saint-Valentin. Ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la ferme et te genoux à terre. Je ne suis plus sourd, un peu à bout, c'est rien. Moi je crois en toi, c'est tout. Non, 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 non. Je ne suis plus sourd, un peu à bout, c'est rien. Moi je veux de toi, c'est tout.
On est passé d'un bar de la rade de Brest avec Mieux Sec à l'instant à peut-être maintenant une petite virée en Italie avec un réalisateur que Simon Rochepot nous a apporté. Alors pas le réalisateur lui-même, un film, et en tout cas son œuvre, c'est Nanni Moretti. Encore une fois, quelqu'un qui ne peut pas séparer en fait sa vie et son œuvre, où il invoque sans arrêt son passé de militant politique, et puis qu'il est resté militant politique, mais en même temps, il est son meilleur acteur. Il est tout le temps dans ses films pratiquement. Ouais. Nanni Moretti, là, c'est quoi ? Tu le vois un petit peu comme une sorte de bienfaiteur amical.
Ouais, c'est ça. Ouais, déjà, c'est quelqu'un qui fait toujours plaisir à voir en fait. Donc, j'espère qu'on le verra encore longtemps, mais c'est vrai que ces films jalonnent un peu tout ça depuis les années 80, l'histoire du cinéma européen, puisque lui-même est romain, italien. Et à chaque fois, c'est d'aller découvrir, de dire waouh, il est là, quoi. C'est une présence qui est amicale et réchauffante, alors que je le connais pas du tout. J'ai essayé d'aller le voir, parce qu'il a un cinéma à Rome, donc j'ai été traîné là-bas en espérant le croiser, mais ouais, évidemment, je l'ai pas vu. Mais il fait un peu partie de la famille, quoi. C'est étonnant. Mais c'est surtout à travers le premier film que j'ai vu de lui, qui est Journal Intime, qui date aussi de 95-96, en fait. C'est marrant parce qu'il y a une période riche, finalement, artistiquement, où j'ai reçu beaucoup de choses à cette période-là, quoi.
Peut-être c'est parce que quand on a 20-25 ans, ouais, on s'intéresse beaucoup au monde.
c'est ça,
production culturelle. Ouais. Ouais. Alors, en tout cas, oui, toi, tu l'apprécies parce qu'il y a ce côté peut-être rassurant aussi, j'imagine, de voir quelqu'un dont on pourrait partager les idées et peut-être une pizza et un coup au bistrot, et ça passerait bien.
Ouais, et puis un engagement politique, ouais, comme tu disais, donc du côté des communistes, évidemment, mais c'est un engagement très fort et qui continue un militant à travers son œuvre et tout, et avec ce sourire sympathique, en fait, ce truc qui est un peu détaché, contrairement à Piala, justement, qui lui est vraiment un personnage dense, mais pas forcément sympathique, quoi.
Quand on est scénariste de bande dessinée et qu'on traite surtout d'un aspect documentaire, on rencontre du monde, est-ce que on se prémunit du risque de la page blanche, en fait? Il n'y a jamais de page blanche, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose qui inspire, ou par moment, on n'en peut plus, finalement?
C'est une question, j'ai jamais trop réfléchi à ça, mais il m'est arrivé de travailler sur des choses et de les abandonner parce que je les sentais plus, ou de les laisser dans un placard et dans un tiroir, et d'y revenir 2 ou 3 ans plus tard. En fait, je pense qu'il faut jamais non plus tout lâcher. Il faut sentir les choses, faut le faire avec plaisir, même si c'est pas toujours, l'écriture de L'homme qui a notre vue, ça pas été une partie de plaisir, mais j'ai une BD là qui va être dessinée par Benjamin Bachelier, que j'ai écrit hyper aussi avec beaucoup de documentation, mais où j'ai pris un plaisir fou à écrire. En fait, il n'y a pas de process, c'est à chaque fois différent, quoi. Et c'est ce qui est intéressant.
On attendra en tout cas de la part de Simon Rochepot via une participation à une BD sur Mieux Sec, peut-être aussi une grande BD comique qui détrônera Fab Caro des étals de magasins de bande dessinée. Alors que finalement, est-ce qu'on est un peu loin de la bande dessinée avec Fab Caro? Non, c'est du dessin et du texte, c'est de la bande dessinée, c'est sûr. Ouais. Vous retrouvez à plusieurs reprises notre invité Simon Rochepot aujourd'hui dans les semaines à venir, déjà ce week-end. week-end, peut-être on te croisera, certains vont faire comme toi avec Nani Moretti, vont aller du côté du Palais du Grand Large à Saint-Malo pour espérer te croiser et te proposer une idée de d'histoire, parce que tu participes à ce festival Quai des Bulles.
Ouais, je monte des expos depuis 3 ans. La première que j'ai montée, c'était avec Surderf Bagderf, qui est un super dessinateur indépendant américain.
Mon ami Damer, pour ceux qui.
Mon ami Damer, et surtout sa dernière BD sur le campus, un campus où l'armée américaine a tiré sur les étudiants. Kent State, que je vous recommande, pour moi c'est son chef-d'œuvre en fait. Et en attendant les prochaines, j'espère qu'il reviendra sur moi à Saint-Malo. Et cette année, c'est plus sur Benjamin Flao, qui est un dessinateur virtuose, édité aussi un peu chez Futuropolis, et dont la dernière BD s'appelle La vie secrète des arbres.
Ne pas confondre avec Riyad Satouf. Hein, c'est pas...
Non, rien à voir.
Vous retrouvez aussi Simon Rochepot le 8 novembre, au Vendredi de la Bibliothèque, au Champ Libre. Ça, c'est dans le cadre d'une série de rencontres, Dialogues européens, du 7 novembre au 1er décembre, en partenariat avec l'Institut français. Et là, tu seras en conversation avec Romain Huette, qui lui est universitaire, je le disais tout à l'heure, essayiste, et puis qui a pu peut-être passer du temps en immersion avec des combattants en Ukraine. Mmh. L'Ukraine que tu connais aussi assez bien.
Bah, j'y suis allé, ouais, en 2018, sur les traces de Dina Shevchenko, pour laquelle on a écrit avec Thomas Zuelos aussi en 2 tomes, prénom Ina. Et donc Ina est une porte-parole des femmes, même si le mouvement s'est un petit peu éteint là, depuis quelques années. Mais en tout cas, elle a une vie passionnante. C'était essayer de comprendre comment on devient fémène à l'âge de 18 ans. Et donc, c'est aller sur ses traces. Ouais, je suis allé à Kiev et à Kherson. Donc, évidemment, c'est quand il y a 2 ans, les Russes ont commencé. D'ailleurs, la première ville prise par les Russes a été Kherson. Ça m'a mis un petit choc, ouais.
On a été assez grave hein, pendant cette émission Le Grand Tout, Champ Libre Simon Rochepot. Mais on va rester un peu grave, au moins dans la voix du chanteur qui arrive, et pourtant dans un titre assez léger. Ça va nous faire aller vers le soleil, vers la lumière. On terminera donc avec une anecdote que tu pourrais nous narrer à ce propos, si tu veux.
Non, c'est marrant parce que les Tinder Sticks font le lien aussi entre le cinéma et la musique, puisque eux-mêmes ont fait des musiques de films de Claire Denis. Et moi, quand je ferme les yeux sur certaines chansons, je suis dans un western américain. Enfin, il y a des atmosphères. Puis bon, évidemment, la voix de Stuart, c'est ça.
Stuart Staple, ouais. Oui. On termine avec ce titre Harmony Around My Table, ce qui n'est pas tout à fait peut-être le résumé de la carrière de scénariste de Simon Rochepot, parce que l'harmonie, on a du mal à la trouver dans ces histoires-là, mais on est bien autour d'une table. Mais tu aimes aussi sortir de ce bureau.
Oui, tout à fait. Ouais.
Retrouvez donc Simon au Champ Libre, et puis ce week-end à Saint-Malo pendant le festival Quai des Bulles. Merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie. À bientôt.
La 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 la. get some harmony around my table. Another day I had some luck, but now that was 2 weeks last Tuesday. Since then there's been a sliding feeling. I had a deal but they broke it Monday. I couldn't figure out what they were saying. Now my kids are looking hungry. I get some harmony around my table. Some giggling in my bed. A little joy and a little loving.
C'était les Tindersticks choisis par notre invité Simon Rochepot dans Champ Libre A, saison 2, épisode 2. Remercie comme d'habitude à Clarisse Mérour et Antoine Blanchet à la bibliothèque des Champs Libres pour avoir aidé à fabriquer cette émission. On se retrouve lundi pour le retour du Grand Tout. On repart donc pour une nouvelle partie de la saison. À bientôt, bon week-end sur Canal B ou ailleurs. Ciao!